Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il ferait tout pour qu'il y ait une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Ankara dans les prochains jours. Alors, bah oui, on analyse cette annonce avec Gérard Vespierre, géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Il s'exprime au micro de Blaise van der Linden.
Gérard Vespierre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, on va parler de cette potentielle rencontre entre les dirigeants russes et ukrainiens. C'est Volodymyr Zelensky qui l'a affirmé aujourd'hui, ce mardi, qu'il ferait tout pour qu'il y ait une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en Turquie, où le dirigeant ukrainien prévoit donc de se rendre pour des pourparlers avec la Russie. Alors pour commencer, Gérard Vespierre, question peut-être un peu large, mais la possibilité, l'opportunité que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se retrouvent autour d'une table cette semaine, est-ce qu'elle est vraiment possible?
Je pense humblement, à titre personnel, qu'elle est, elle est importante, elle est élevée, cette probabilité, à partir du moment où Zelensky a dit « je serai là ». Je pense qu'en conséquence, qu'il soit en face d'une « chaise vide », entre guillemets, en termes d'image, serait pas très positif pour la Russie. Donc à partir du moment où premièrement Vladimir Poutine a lancé cette idée de négociation en face à face, donc c'est un fait nouveau important, bien sûr avec un refus de cesser le feu, mais ça c'est de la tactique. Donc l'important c'est effectivement la stratégie d'un début de négociation. Il fallait impérativement que Zelensky réponde d'une façon ou d'une autre positivement, ce qu'il a fait. Et donc, je pense que en conséquence de la conséquence, eh bien, Poutine devrait être là maintenant. Comment les choses vont se dérouler? Alors là, nul ne sait, parce que Zelensky peut très bien dire « je continue à négocier avec vous si, effectivement, pendant nos négociations, le cessez-le-feu s'établit ».
Oui, justement, vous utilisez ce mot « négociation ». Quelles pourraient être les exigences du côté russe de la part de Vladimir Poutine si jamais les deux hommes se rencontrent?
Les exigences, globalement, elles sont très claires, elles sont très connues. Par-dessus tout, la Russie veut une reconnaissance internationale de ses nouvelles frontières autour de la ligne de front en Ukraine. Cela veut dire que il faut impérativement que l'Ukraine accepte de reconnaître également nationalement ces nouvelles frontières, ce à quoi les Ukrainiens sont probablement fortement opposés. Donc il va y avoir un travail sémantique, diplomatique de toute première importance pour essayer de trouver les mots qui soient acceptables des deux côtés de la table. Ça ne va pas être chose aisée.
Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a-t-il évoqué certaines lignes rouges, on l'imagine?
La ligne rouge, si vous voulez, pour Zelensky, c'est de dire adieu au territoire perdu. Donc il souhaite avoir une porte juridique ou une porte ouverte pour un jour pouvoir retrouver ces territoires. Donc voilà, c'est ce basculement-là auquel de nationalité de territoire auquel Zelensky va se battre de façon très 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 forte. Maintenant, il a pas beaucoup de cartes en main pour s'opposer à ça. Il n'y a que le temps, n'est-ce pas? Bon, on voit l'évolution il y a quelques dizaines d'années de l'Empire soviétique qui était à Berlin et maintenant qui est limité à l'Ukraine. Donc voilà, avec le temps, l'histoire se déroule et le glacis de l'Europe de l'Est a basculé et l'URSS s'est écroulé puisque la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie, etc. et toutes les républiques d'Asie centrale faisaient partie de l'Union soviétique Russie.
Oui, justement, on a préparé cet entretien hors antenne, Gérard Vespierre, et vous m'expliquiez l'importance économique en fait de cette réunion et des discussions, des négociations qu'il y a en ce moment.
Oui, alors effectivement, il y a les indicateurs dont on n'a pas voulu tenir compte en fin 2021, quand la bourse de Moscou a fortement chuté. Ça voulait dire que le monde économique financier russe se doutait de la guerre, avait les informations, voyait les commandes arriver pour fournir l'armée en prévision de l'affrontement. Donc la bourse a perdu 30% entre le mois d'octobre et le mois de décembre, et donc le rouble aussi s'affaiblissait. Cette fois-ci, depuis quelques jours, le rouble se redresse, il a gagné pratiquement 5%, donc ça veut dire que les milieux industriels, financiers, politiques, et ce monde-là ne fait qu'un en Russie, eh bien, serait plutôt porteur de nouvelles positives, et donc d'une direction, effectivement, vers des négociations cas, mais pour le moment, on n'a pas cette rencontre. Donc, apparemment, le monde économique, financier, politique, intérieur russe parierait sur des négociations.
L'Union européenne a annoncé que si le cessez-le-feu de 30 jours proposé par les alliés de Kiev était refusé par la Russie, elle accéderait à de nouvelles sanctions. Est-ce que ça pourrait être le glas du pouvoir russe, ces sanctions économiques venant de la part de l'Union européenne et des États-Unis? Ils sont pieds et poings liés maintenant.
Alors, le glas, je crois pas, mais disons que il y aura un prix à payer pour la Russie dans l'état de son économie dans les années à venir. Elle aura du mal à se relever de cette situation où il y a eu un terrible surinvestissement dans l'industrie de défense et l'industrie de guerre, et un sous-investissement dans tout le reste. Et avec 700, 800 000 morts et blessés, avec un million environ de Russes qui ont quitté leur pays, qui étaient jeunes, cadres, ou moins jeunes, mais ayant des compétences, et qui pouvaient donc faire une carrière ailleurs. Il y a déjà eu des réunions entre l'équivalent du patronat russe et Poutine. Et Poutine a prévenu effectivement que les temps à venir allaient être plus difficiles et que le patronat devait s'y préparer. Donc il y a cette vision-là en s'appuyant aussi sur les points forts de l'économie russe qui sont le gaz et le pétrole, et où dans les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans à venir, eh bien les consommations vont baisser mondialement parlant. Donc La Russie n'a pas, je dirais, d'autres industries dominantes. Elle n'a pas d'industrie de transformation. Elle n'a pas elle n'est pas présente dans l'électronique. L'industrie automobile, dans la pharmacie, tout ça sont des produits importés ou fabriqués, assemblés en Russie par des marques étrangères. Donc vraiment, il y a un tissu économique fragile pour la Russie, avec une population qui diminue. Donc, à mon sens, l'avenir est délicat. Et donc, les sanctions vont pas forcément avoir un impact immédiat, mais vont conforter le déclin de l'économie russe à venir.
Oui, pour terminer, Gérard Vespierre, on l'a dit en début de cet entretien, ces potentielles réunions vont se passer à Ankara avec la présence de Recep Tayyip Erdogan. L'homme fort de la Turquie a-t-il un rôle à jouer?
Il est géographiquement à une plaque tournante entre effectivement l'Asie et l'Europe. Il a joué deuxièmement habilement de cette carte russe en approvisionnant des systèmes de défense AS-400, donc défense antiaérienne russe, qui ont fait beaucoup parlé il y a quelques 3 ans. Donc il est à la frontière effectivement de l'univers européen, de l'univers russe, d'un point de vue politique. Il approvisionne beaucoup donc d'énergie d'origine russe. Donc il a une place effectivement à jouer, bien qu'il ait ou son industrie ait fourni des drones au premier dans la première année de guerre, fourni des drones à l'Ukraine. Donc voyez-vous, il est effectivement au milieu du jeu, il joue habilement les deux cartes. Donc il a déjà la Turquie a déjà abrité des négociations au niveau agroalimentaire et du fret maritime. Donc il est déjà avec un historique favorable dans le rapprochement de la Russie avec l'Ukraine ou d'autres intervenants européens, par exemple.
Gérard Vespierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. À bientôt.
Merci.